RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds.
Dorian.
Basket Time sur RMC, c'est votre rendez-vous basket du mardi en podcast sur rmc.fr avec une Dream Team composée aujourd'hui de Stephen Brun, Arnaud Valadon et de Fred Weiss. Bonjour messieurs.
Salut.
Salut mon petit Pierrot.
C'est un spécial Boston Celtics et
nous
avons pourtant convié le fan des Lakers, Fred Weiss. T'as vu la belle veste des Celtics qui nous a sorti Arnaud ?
Je vois pas ce côté-là.
C'est pas, mal.
Elle est belle.
Ouais, elle est belle.
On m'a arrêté déjà dans la rue pour me dire qu'elle était belle. Hein.
Ah, je pensais qu'on t'avait arrêté dans la rue pour dire Are you Peyton Pritchard, Celtics ?
Ça va aller, Fred ? Tu vas réussir à faire un podcast sur les Celtics ?
Non, mais je les déteste pas non plus.
Ah bon ? Bah, tu devrais.
Dans le vert, tu dois bien aimer. Ça rappelle Limoges.
Limoges, c'est en jaune et grenat. C'est pas en vert.
C'est la force des équipes légendaires. Dans un spécial Boston, on va parler des Lakers, forcément. Un moment ou un autre.
Okay.
Je ne te dis pas quand. Voici le programme. La première place des Celtics, c'est-elle un trompe-l'œil ? Oui, cette question, c'est parce que parfois, il y a eu des gros couacs contre les meilleures équipes de la Ligue. Et puis, Jason Tatum est-il assez fort pour faire gagner une bague à ses coéquipiers ? Jusqu'à présent, ça s'est arrêté soit en finale de conférence, soit en finale. Il va falloir franchir la dernière marche pour Jason Tatum. Partie historique. La partie historique, là, concerne une légende de la NBA. C'est Larry Bird, oui. Ah,
c'est qui ?
Parce que parfois on va chercher des trucs un peu pointus dans cette partie historique, mais je pense qu'il est important d'éduquer les jeunes générations, et donc vous allez nous raconter Larry Bird.
Larry Legend, c'est son surnom déjà.
Larry l'oiseau.
Ça va Fred ?
Ça va. Mais j'adore Larry Bird.
Ah bon, bah alors tout va bien. Le quiz, bah le thème du quiz, ce sont les Celtics. Ça vous étonnera pas ? Vous connaissez bien les Celtics ?
Pas tellement.
Non.
Il va falloir pourtant. Donc c'est parti pour ce Basket Time spécial Boston Celtics, les meilleurs de la saison régulière cette année.
The Boston Celtics have elevated, as far as I'm concerned, to the favorite to win it all.
Jaylen Brown with the thunder.
What a finish by Jaylen Brown.
Oh, Porzingis with the ankle breaker move to the rim.
Here's a double team again. Porzingis gets a good look for three.
It's good. Kristaps Porzingis drills a three-pointer.
Here comes Holiday. Out to the corner. The no-look feed for Horford, who drains the three. Drew Holiday does that multiple times every game. Fires and sticks it.
Adebayo drives. Blocked by Horford.
Jaylen Brown. A strong first half.
Oh, coming strong and caught a body.
Oh, boy.
Nice stop.
Allez, on parle donc de la meilleure équipe de la saison jusqu'ici, les Boston Celtics, avec un bilan de 36 victoires pour 11 défaites, avec son duo de gâchettes Tatum Brown, avec une équipe très complète. Mais un petit bémol dont on va débattre, c'est que contre les meilleures équipes de la Ligue, parfois ça s'est mal passé, Arnaud.
Un bémol, mais qui peut être en trompe-l'œil. Pourquoi ? Oui, ces dernières semaines, il y a eu deux défaites à domicile, les deux premières de Boston, qui ont marqué les esprits. Tout d'abord, dans un magnifique duel où il y a eu match contre Denver, défaite au Garden 102-100, avec Tatum qui a manqué deux fois la balle de match. Et puis tout récemment, le week-end dernier, une défaite, une fessée, voire une humiliation, contre les Clippers à domicile, 115-96, sans Kristaps Porzingis, mais il y avait presque un moment plus de 20 points d'écart, et la seule absence de Porzingis ne peut pas expliquer vraiment ce naufrage à domicile des Celtics. Mais pourquoi on trompe l'œil ? Sur les 11 défaites...
Ah bon ?
Oui.
La seule absence de Porzingis ne peut pas expliquer cette déroute.
Bah, autant de points quand même.
Ah, très bien, on chie sur Porzingis, il n'y a pas de problème.
Ah,
on démarre comme ça.
Perdre sans Porzingis, oui, mais une telle déroute sans lui, il y a une limite. Voilà, on en parlera. Pourquoi je dis en trompe-l'œil ? Parce que si on regarde vraiment le bilan des Celtics contre les meilleures équipes de la Ligue, il n'y a pas de bilan négatif. Seul... pour le moment face à Denver, parce qu'il n'y a pas encore eu le match retour dans le Colorado, mais contre les Clippers, c'est une victoire, une défaite. Pareil contre les Bucks, pareil contre Minnesota et contre Philadelphie, on est à deux victoires, une défaite en faveur des Celtics. Donc finalement, ils ne sont pas totalement largués face aux rivaux.
T'as fait une erreur majeure, Arnaud. Tu t'en es pris un ancien joueur des Mavs.
Ouais, enfin,
ou des Knicks.
Je me rappelle plus trop de son passage aux Mavs.
Lui non plus, je crois.
Alors, est-ce que cette place de leader est un trompe-l'œil ? On va en débattre justement. Est-ce que les matchs que nous a rappelés Arnaud, ça vous inquiète plus ou moins, Fred ?
Ben non, il l'a expliqué, parce que contre Denver, concrètement, il y a un match, ça se finit sur une possession en plus de Tatum, qui prend un shoot complètement catastrophique, qui aurait pu faire bien mieux, mais bon, c'est toujours des mauvais choix de Tatum dans les situations compliquées. Et ensuite, le match contre les Clippers, franchement, effectivement, quand il n'y a pas Porzingis, c'est pas la même chose. C'est un peu léger à l'intérieur, donc t'as pas cette puissance de dissuasion. Alors, c'est pas le plus fort sur l'homme au contact, mais par contre, il peut être là pour gêner, il peut apporter cette capacité à écarter le jeu. Sans Porzingis, moi je trouve pas que ce soit une défaite si honteuse que ça. La NBA, on sait comment c'est. Hein. Oui. Ça peut d'un seul coup prendre des proportions importantes alors qu'il y a juste une défaite en fait.
Alors est-ce que c'est une place de leader qui est totalement justifiée?
Ben, si t'es à 36-11, t'as perdu que deux fois à la maison. Alors même si t'as failli perdre contre les Pels hier, t'as perdu que deux fois à la maison, t'es plutôt une équipe sérieuse.
C'est juste normal de galérer de temps en temps.
La saison est longue, il y a beaucoup de matchs et on l'a dit, Porzingis n'est pas là.
C'est juste normal de galérer de temps en temps face aux bonnes équipes.
Ah bah oui, je veux dire, c'est une saison. On a déjà fait des débats sur la saison régulière qui est très longue, 82 matchs. Moi, j'ai jamais vu une équipe rouler, mis à part les Warriors et les Bulls, rouler sur une saison régulière sans avoir un petit peu de up and down. Les Celtics, ils sont de très loin. C'est de très loin la meilleure équipe de la Ligue.
De très loin, tu dis, toi.
Ah oui, depuis le début de la saison, ça se voit sur les chiffres.
Et même dans la constance. Hein,
mais oui, c'est la seule équipe qui, cette année, a enchaîné une seule fois deux défaites consécutives. Une seule fois, c'est arrivé. Toutes les autres équipes et toutes les grandes équipes de la Ligue ont déjà perdu plusieurs fois deux matchs de suite, voire plus. Ça veut dire qu'il y a une vraie constance. Alors, de temps en temps, tu perds un match. Oui, tu perds un match. Sachant que tous les gros, tu les as déjà tapés aussi chez toi. Tu as perdu à Minnesota, tu as perdu à Philly, tu as perdu à OKC, tu as perdu à Milwaukee. Je ne trouve pas ça dramatique pour une équipe qui est à 36-11. Quand tu es la troisième meilleure attaque et troisième meilleure défense de la Ligue, qu'est-ce que tu peux reprocher à cette équipe-là, Pierrot?
Arnaud, t'es d'accord avec ça ?
Oui, et je vais préciser ma pensée sur Porzingis, parce que ce que je voulais dire, c'est que la seule absence de Porzingis n'explique pas le fait que tu sois à moins 30 à l'entame du dernier quart-temps face aux Clippers.
Après le quart-temps n'existe plus quand t'es à moins 30. Hein.
Voilà.
Après, ils ont shooté à 10 sur 40 à 3 points un soir où ça va pas, ça arrive.
Adresse horrible.
Ça va pas, t'as pas Porzingis, bah ça, voilà, puis, ça passe à travers.
Et puis Porzingis a cette possibilité d'écarter le jeu que n'a pas Al Horford. Ça veut dire que quand il y a Porzingis, Tatum et Jalen Brown, ils ont cette possibilité
ouvert,
de driver et d'aller finir au cercle, alors qu'Al Horford, il joue. Alors même si c'est un bon tireur à 3 points,
mais c'est plus le même.
Mais c'est pas Porzingis, bien sûr. Donc il compresse un peu la raquette.
Mais pour moi, il y a clairement une Porzingis dépendance. Je trouve que les Celtics
c'est ça qui est inquiétant. Pour
ont
moi,
clairement
c'est
avoir un problème, le c'est meilleur 5 de la ligue. Franchement, quand tu vois Derrick White, Jrue Holiday, qui est vraiment une addition parfaite parce que la greffe Brogdon n'avait pas pris, donc bien joué de la part du président de la franchise. Brad Stevens. Voilà, comme quoi ça arrive les trous. Mais derrière, le banc. Pour moi, peut-être en play-off, ça peut être la limite.
Ouais,
je ne vois pas
peut-être.
Une profondeur d'effectif incroyable. Par contre, le 5, je trouve juste monumental. Tu rajoutes Jalen Brown, tu rajoutes Porzingis plutôt en 5. Al Horford, qui est ton défenseur.
C'est très correct, quand même. Horford, c'est...
Absolument,
mais
derrière...
Tonton Al, c'est...
Mais derrière, des Sam Hauser, alors OK, Peyton Pritchard à la main et tout. Je me demande si là, en play-off, ça ne va pas être limité. Le 5 est peu, si tu vois sur le papier... Il peut être champion NBA. Par contre, on sait que même si les rotations se resserrent, on joue quand même à 7, voire 8. J'ai un peu plus de doutes quand même sur cette profondeur.
T'as des doutes, le petit Peyton Pritchard qui fait une belle saison quand même.
Pas que lui, à la rigueur.
Vraiment, il est
joueur de basket.
Moi, j'ai vu pas mal de matchs où, quand il rentre, il apporte cette énergie. Oui.
Non, je
il a du jus.
Il a du jus.
Je l'aime bien, au moins, allez, sur les postes extérieurs, à l'intérieur, ouais.
Bah, c'est là qu'il y a le problème. On en revient à ce que tu disais. Porzingis,
sur 3, 4, 5.
Après, il faut aussi se rappeler qu'à l'intersaison, ils perdent les deux Williams, Bébert et Grant Williams, qui perdent Malcolm Brogdon et qui perdent Marcus Smart. Ils perdent 4 joueurs énormes pour récupérer qui ? Pour récupérer Jrue Holiday. Donc, l'effectif, c'est sûr qu'en chiffres, en termes de profondeur, il s'est restreint. Maintenant, il n'y a pas une équipe meilleure en NBA cette année. Ils sont hors normes défensivement. Quant à Derrick White et Jrue Holiday sur les lignes arrière, bon courage, mon grand, pour
attaquer.
Jrue Holiday, tu peux switcher sans aucun problème parce que lui, il défend sur les pivots.
C'est fort ce que vous
faites. Le problème, c'est que tu me parles de Porzingis dépendance, peut-être qu'on n'en est pas là, mais Porzingis n'est absolument pas un joueur fiable physiquement.
Totalement.
Donc, il a joué 33 matchs. C'est le petit bémol de la saison.
d'ailleurs en play-off sans un joueur majeur qui te dérègle complètement ton équipe.
C'est le cas pour toutes les équipes, Pierrot.
Là, je rejoins un petit peu.
Il a un côté jury pro.
Il a pas l'habitude de finir les saisons. Il n'a pas l'habitude de faire une saison avec beaucoup de matchs.
Il a loupé 13 matchs.
Il a fait que deux fois les playoffs dans sa carrière.
C'est l'équipe qui va faire une post-saison hyper importante. Il n'a pas l'habitude de le faire souvent non plus. Avec sa tendance à la blessure, ça peut être dangereux quand même.
Il n'a fait que deux fois les playoffs dans sa carrière.
Oui, c'est pour ça. La post-saison, c'est pas vraiment son truc.
Mais ça fait 10 ans qu'il est en NBA.
Oui, après, il était au Knicks au début.
Après, il y a des saisons où il n'a pas fini.
Il n'a pas joué du tout.
Il était sur la civière, donc peut-être que ce n'est pas fait les playoffs. Mais...
D'où la
problème.
Oui, non, mais après, si on parle de santé, Porzingis qui a joué 33 matchs sur 45, c'est pas non plus dramatique. Les mecs, ils sont là. Tatum, 43 matchs, Holiday, 42, Brown, 43, Derek White, 42. Les mecs,
ils ont beaucoup de minutes aussi.
Ah, bah oui, mais quand tu joues à 8, tu tires forcément sur la corde. Mais ce que Jason Tatum et Jalen Brown ne sont pas capables de jouer 36 minutes de moyenne. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont capables de le faire.
Sans aucun problème.
Oui.
Bon, et alors, après, au complet, si ça se met à tourner, quelle équipe peut rivaliser? Il y a Denver qui a une grosse marge de progression, non?
Déjà, à l'Est, tu as les Sixers. Quand même.
Ouais, après les Sixers, moi j'aime bien les Sixers, mais là cette nuit ils prennent une volée contre Portland parce qu'il n'y a pas de joueurs. Ça fait 3 matchs de suite, ils jouent sans Tobias Harris, sans Tyrese Maxey, sans Joel
Embiid. De toute façon, est-ce qu'il va pouvoir enchaîner les matchs ou pas?
Après, je sais pas, Embiid, je sais pas ce qu'ils font. C'est un vrai mystère, Joel Embiid.
C'est le même problème.
Pourquoi vraiment, c'est un mystère?
Contre Denver,
depuis 2019 qu'il n'a pas joué à Denver.
Contre Denver, 15 minutes avant, il est sur le terrain, il n'est pas annoncé out. Et apparemment, c'est les mecs qui le regardent s'échauffer en disant mais non, toi tu peux pas jouer. Je pense qu'il jouait.
Oui, c'est ça.
De l'altitude?
Non, je sais pas. Mike Malone fait conférence de presse hier, le coach des Nuggets. On lui demande quand est-ce que vous avez appris que Joel Embiid jouait pas. Il dit, il a une petite blague en disant c'est Vosge qui m'a appelé, Wojnarowski qui m'a appelé pour me prévenir. Il me dit, mais on l'a appris 15 minutes avant, on l'a vu s'échauffer avec tout le monde et du jour au lendemain, il a disparu du roster.
Oui, c'est plus important que Porzingis pour le coup.
Joel Embiid? Oui. Non, mais après
Paul Reed avait
Miami,
fait 30 points.
Oui, après, il faut aussi.
Miami, est-ce qu'ils peuvent encore leur faire le coup?
Ils sont pas bien. Miami, hein.
Oui, mais il faut jamais.
Enterré. Tu te rappelles l'année dernière?
C'est toujours l'équipe chien de la casse, comme on dit.
Mais il faut aussi.
Milwaukee,
je demande à voir.
Bon, il y a Doc Rivers, on est tranquille, ils iront pas en finale.
Il faut aussi, si on parle des Celtics, l'année dernière, on avait tapé un petit peu sur Joe Mazzulla, qui était un coach rookie qui avait fait quelques heures de coaching. Il a une année supplémentaire. Il connaît bien son groupe. Il a progressé dans le coaching, Joe Mazzulla.
Ouais, tu sens la maturité, oui. Hein, c'est clair.
Bon, donc, pas de soucis majeurs pour les Celtics. On est d'accord?
Non, et puis,
au-delà, on parle vraiment du sportif. C'est aussi très structuré. Brad Stevens, qui, on sent, a un côté. Fils spirituel de Danny Ainge qui est parti, mais sur flairer les bons coups avec les trades, parce que tu parles des deux Williams. Oui, Grant Williams, c'est une belle perte, mais Robert Williams, là, ça fait déjà plusieurs mois qu'il est out.
Oui, mais bon, si tu l'as en backup sur le poste intérieur, ben Williams, à un moment donné, c'était un intérieur très coté.
Mais énormément blessé, tu vois.
C'est un joueur qui te manque, parce que défensivement, t'as pas de poids dans la raquette, t'as
verticalité,
pas de
verticalité.
Après, là, il va faire 20 matchs en 2 ans, donc tu vois, est-ce qu'il te manque tellement, parce qu'il était plus souvent à l'infirmerie que sur le terrain. Mais c'est aussi ça, voilà, l'organisation des Celtics.
T'aimes pas les pivots, c'est la deuxième que t'attaques, le Porzingis qui se blesse tout le temps.
J'adorerais Robert Williams.
Après, peut-être qu'eux ont vu la même chose que nous, qu'il y a une carence peut-être et qu'il manque quelqu'un de profondeur devant. Ils vont peut-être bouger avant le 8 février, la fin de la trade deadline, pour amener un tonton.
Alors, tu ferais qui, toi? Quel joueur?
Je sais pas, un tonton, un backup à l'Orford dans la raquette. Je sais pas, ça doit bien exister.
Il y a Nimias Kita, là.
Tu peux pas récupérer Dwight Howard à Taïwan, non? Tu peux venir.
Allez, on continue. Donc, deuxième dossier, le dossier Jason Tatum. C'est un spécial Boston Celtics aujourd'hui. Dans Basket Time.
With the third pick in the 2017 NBA draft, the Boston Celtics select Jason Tatum.
Tatum cycles in and scores plus the foul.
Your muscle spin finish through contact.
Sans ballon perdu en playoff.
Tu peux pas faire des matchs comme ça où t'es pas dominant, où t'es inconstant, où tu abandonnes ton équipe.
Tatum on the cut takes it all the way and slams it. He wanted a foul. He ties the game at 107.
Alors oui, il a foiré ses finales NBA. Et moi, ce que je note, c'est que Jason Tatum, il a envoyé à Copacabana Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo et Jimmy Butler.
Tatum on the step back. Got it. He's inside. Blocked by Tatum. Tatum for three. You bet.
There you go.
De l'autre côté, lui, il voulait prouver des choses, donc il a forcé, donc il a été moins bon. Un peu plus compliqué que ça.
Vous m'avez saoulé. Mais si ça marche comme ça, la NBA, j'en ai marre.
Oh yeah! Tatum beats the buzzer! Jason Tatum, the youngest Boston Celtic ever
with 10,000 career points.
Alors je me souviens qu'il y a quelques mois où on avait fait un débat où vous aviez manqué de respect à Jason Tatum. Alors on va refaire le débat. Tatum est-il assez fort pour faire gagner les Celtics?
On était pas loin de la, en termes de longueur de la prod du quiz. Hein.
C'est vrai. Alors le débat est intéressant parce que évidemment très fort joueur, aucune raison de douter de ses capacités, mais il s'est toujours cassé les dents, soit sur Miami deux fois en finale de conférence, soit sur les Warriors. La seule finale de ces Boston Celtics là, c'était en 2022, donc leur récurrence au très très haut niveau, elle est évidemment pas à prouver. Maintenant, ils n'ont toujours pas gagné. Alors, Jason Tatum est-il assez fort pour faire gagner ces Celtics? C'est notre deuxième débat dans ce Basket Time spécial Boston. Oui, Arnaud, je sens que tu veux y aller là. Je sens que tu es chaud.
Oui, mais je pense que...
Il y a un oui, mais dans
mais
cette
jeu. Ça commence pas super chaud quand même. Oui, mais...
C'est oui ou non?
Non, oui, il peut y aller. Après, non, c'est différent oui, parce que dans l'ADN des Celtics, certes, il est moins dominant que des Embiid, des Jokic. Là, il vient de faire son apparition en cinquième position sur la projection du futur MVP. Voilà.
Quatrième la saison dernière.
Voilà. Premier américain encore, parce que ça aussi, ça compte. Il est devant, là, en ce moment, Kevin Durant, notamment. Alors, c'est tellement international, parce qu'il y a Gilgeous Alexander devant. Il est plus efficace, je trouve, plus adroit. Un peu moins de points, mais de meilleure qualité. Ça reste quand même l'ADN des Celtics. Certes, on va parler de Larry Bird, mais même à l'époque de Paul Pierce, qui était le leader de cette franchise, il a dû attendre Debo Copa, Ray Allen et Kevin Garnett pour gagner. Donc, c'est des duos, des trios qui font toujours gagner les Celtics dans l'histoire. Donc, oui, Tatum peut amener.
Et alors, les ballons qui perdent, tu t'en parles pas de tous les ballons qui perdent?
Et tout le monde perd des ballons. Hein.
Non, mais oui, mais
Kevin Durant perd des ballons aussi.
Hein. T'as jamais perdu de ballon, Fred?
Bah, dans les Money Time, alors déjà, c'était pas moi qui avais le ballon dans les Money Time au départ.
Après, mais en là plus, aujourd'hui, c'est aussi.
C'est ça. Si tu veux être une superstar, à un moment, il faut que t'assumes.
C'est aussi le rôle de Tatum qui est un
Manu
peu décalé.
Ginobili,
un peu plus.
T'as perdu des ballons dans le Money Time?
Je pense qu'il était plutôt fiable quand même dans le Money Time, Manu Ginobili, non?
Oui, ouais. Il a aussi des dingueries. Oui. Hein.
Voilà, jamais perdu.
Jamais.
La question qui se pose, c'est Tatum dans cette nouvelle organisation où il est amené à jouer un peu plus poste 4, à être un peu plus décalé. Alors poste 4, on relativise parce que c'est Porzingis le pivot et ça gravite autour. Mais il a aussi un petit rôle différent cette année de par l'arrivée de Jrue Holiday et aussi le décalage de Jaylen Brown. Ça a décalé un petit peu tout le monde.
Est-ce que tu as un doute sur sa capacité à faire gagner une titre?
Non, j'y crois.
Titre? Non, aucun doute.
Non.
Toi, Fred,
tu crois pas du tout.
Tu crois pas du
mais
tout.
Je trouve que pour moi, si j'ai envie de résumer sa carrière, en tous les cas, ce que je ressens, hein, je dis pas que j'ai raison, mais ce que je ressens, c'est le match contre Denver. Le match contre Denver, il a le ballon, dos au panier, il domine son adversaire direct, il lui reste le temps de faire un dribble, deux dribbles, de se rapprocher, il fait un shoot en fade away. Hyper lointain, un shoot ultra mauvais.
Tu me parles de quel match contre Denver là?
Le dernier match contre Denver, quand il perd dans la maison.
Là, récemment, ouais, récemment. Oui, mais d'accord.
Et je trouve que ça résume tout à fait sa carrière. C'est-à-dire que très fort joueur quand c'est facile.
Ah, très fort joueur.
Mais quand ça devient plus difficile, voilà, les prises de décision sont plus compliquées. Parfois, son talent lui permet de compenser ça. Sauf que sur ses prises de décision, je trouve qu'il y a des problèmes.
Mais sauf qu'il a fait suffisamment de grands matchs de play-off pour qu'il n'y ait aucun doute. Mmh. Enfin, quand même, Fred, c'est incroyable ce que j'entends là.
Fred, t'es un peu dur quand même.
C'est mon ressenti par rapport au fait qu'il ne gagne pas. Après, oui, il est capable de faire des grandes choses. Je ne remets pas en cause le fait que ce soit un énorme joueur. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire.
Non, mais je te fais pas ce procès-là.
Je vous rappelle quand même que Embiid, Jokic et Antetokounmpo, ils ont entre 28 et maintenant, il a 25 ans, hein, Jason Tatum. Il est encore extrêmement jeune. Hein.
Non mais bien sûr.
Ça reste encore un jeune joueur. Je suis d'accord avec toi qu'il a tendance à avoir eu des déchets sur les playoffs. Il y a ces 100 ballons perdus dont on a attendu sur une série. Mais il y a, sur les playoffs, pas sur une série, mais il a aussi cette capacité à performer dans les moments importants. On rappelle, il a quand même le record all-time sur un match 7, le nombre de points marqués. Il a mis 51 points sur un match 7 contre Philly. Ça veut dire qu'aussi, sur les moments importants, il est capable de proposer un beau basket.
Mais pas de façon régulière, le problème qui te gêne. Dégêne un petit peu, ouais.
Après, l'effectif de Boston, si les chiffres sont pas aussi hauts que par rapport à des Doncic ou des Embiid, c'est qu'il y a une répartition aussi un peu de la marque du côté de Boston. L'arrivée de Porzingis fait que quand tu as un garçon qui arrive et qui met 19 points par match, forcément ça réduit la voilure. Jason Tatum est 12e, je crois, en nombre de tirs pris en NBA, loin derrière les Jokic et derrière les Embiid. C'est-à-dire qu'il répartit les tirs avec Jalen Brown, avec Kristaps Porzingis, avec du Jrue Holiday aussi. Donc c'est pas un glouton, Jason Tatum, par rapport aux autres.
Mais je te rejoins, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais joueur. Je dis juste qu'effectivement, peut-être que sa jeunesse joue contre lui aussi par rapport à ça, mais je trouve que dans les fins de match, dans les possessions importantes, je le trouve pas super fiable en fait.
Donc pas assez clutch, c'est-à-dire le talent il l'a, mais pas assez clutch pour faire gagner un titre.
Ben, j'ai du mal à trouver une action. Alors oui, sur un match au 7, il va te mettre 51 points, mais est-ce que sur la fin du match, si le match est serré, est-ce que tu lui donnes le ballon vraiment? Est-ce que tu es rassuré?
Petite question pour toi.
C'est ma vraie question.
Fred,
c'est pas une vraie question.
Est-ce que tu trouves qu'en play-off, Joel Embiid t'a aujourd'hui donné plus de garanties que Jason Tatum?
Pas du tout.
D'accord. Okay. On est d'accord. Parce que c'est, pour moi, Tatum a déjà fait des choses en play-off. Souvenez-vous aussi.
Ah, Tatum, il a joué des séries play-off. Enfin, souvent, il était à l'infirmerie aussi.
À l'infirmerie. Vous regardez Kawhi mettre un buzzer beater de l'espace.
Après,
mais souvenez-vous des premières finales de LeBron James. C'était pas fou non plus. Il y avait aussi beaucoup de pertes de balles.
Il jouait avec Pierrot et toi, LeBron James, avec les Cavs, quand ils prennent 4-0.
Oui, en 2007. Mais la première face à Dallas, il disparaît aussi. Il était là, il était invisible.
Oui, il était mauvais.
Donc ça arrive au début, et tu dis la jeunesse de Tatum. Par contre, si cette année et l'année prochaine ça continue de coincer, évidemment qu'il faudra se poser encore les questions.
Il a des carences encore dans son jeu, Fred l'a dit, des mauvais choix, des mauvaises prises de décision. Mais tu me demandais si tu lui donnes la balle. C'est quand même un des rares en NBA avoir ce gabarit-là, cette taille-là, qui peut prendre n'importe quel tir de n'importe quelle position, quand même, Jason Tatum.
Ah,
il se crée ses tirs à lui tout seul. C'est un joueur qui est d'une élégance magnifique. Enfin, tu le regardes jouer, tu kiffes.
Unique.
Toi, tu kiffes, toi, Pierre.
Ah ouais, je kiffe. Ah, parce que c'est la beauté, c'est l'élégance.
Oui, c'est un beau joueur de basket.
Je suis moins spécialiste que vous.
C'est un KD un peu plus petit, c'est la même.
J'ai plus de mal à apprécier le jeu d'un intérieur. En revanche, hein, Jason Tatum, oui, quand je me mets devant, oui, je passe un bon moment.
C'est plus beau avoir joué avec LeBron James, Jason Tatum.
Par exemple. Ou Giannis.
Il n'y a pas les mêmes qualités.
Bah voilà.
Donc... Après, Luka est très beau à avoir joué.
Là, je vais faire peur à Steve. Moi, je me régale plus en regardant Jason Tatum que Luka. Luka, des fois, c'est un peu.
Un peu quoi,
c'est, un peu quoi très,
c'est efficace, mais c'est un peu zarbe.
Hein,
c'est un peu bizarre.
Ah, parce qu'il va deux à l'heure.
Oui, voilà. Parce que
tu crois qu'il va deux à l'heure.
Mais est-ce que c'est pas plus fort de jouer à son rythme?
C'est peut-être plus fort.
Finalement, Tatum, c'est un surathlète.
C'est un surathlète.
Donc tu peux pas comparer avec Luka Doncic, qui est pas un surathlète et qui compense avec le basket, justement.
Mais après, Jason Tatum, il fait partie des plus grands de la ligue. Il était quatrième, là il est encore dans le top 5. Team USA, je peux te dire que quand il va. Les premiers noms qui vont être dans les 12 pour Team USA, Jason Tatum, il va être là, viens avec nous à Paris ou à Lille. Il fait partie de la caste des plus grands.
Oui, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je pense la même chose. Juste simplement que pour l'instant.
Je pose une question, puisque tu émets des doutes sur le Money Time ou sur un shoot décisif. Tu le donnes à qui, toi? À lui ou à Jaylen Brown, le dernier shoot?
Alors, je sais qu'il y en a un qui va le prendre. Je sais que Jaylen Brown, il va pas avoir de problème à le prendre. Alors, l'efficacité, je suis pas sûr. Non, mais j'adore Tatum, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'absolu, c'est pas forcément le joueur de la Ligue que je choisirais. En premier.
Mais souvenez-vous, c'est du temps long, la NBA, parce que là, il est encore dans quoi, 7 ou 8 premières années. Le grand Michael Jordan, il n'avait pas fait une finale NBA aussi, et on se posait énormément de questions avant qu'il gagne et qu'il devienne la légende aujourd'hui.
Mais regarde l'équipe qu'a Tatum là maintenant, et combien de temps Jordan a attendu pour avoir ce genre d'équipe.
Il avait une équipe.
À un moment, il faut comparer ce qu'on compare.
Mais fin des années 80, il perdait contre Détroit, il avait l'équipe.
Et puis Tatum va avoir un peu une pression, parce que quand tu fais un trade comme ça et que tu sacrifies des joueurs pour récupérer Jrue Holiday, qui a l'expérience, qui est champion NBA, qui a un
plus gros salaire, Jrue.
Qui a le plus gros salaire des Celtics, ça veut dire que on n'est pas sûr du one shot, mais si t'es pas champion d'ici 2-3 ans, à un moment donné,
mais
rappelez-vous, il y a 2 ans déjà, on parlait de 2-3 ans quand on faisait les podcasts. Est-ce qu'on fait péter le duo Brown Tatum? Finalement, ils ont réussi à rematcher et à s'apprivoiser et à rejouer ensemble. Mais là, s'ils gagnent pas, il y en a un des deux qui va se réveiller avec 20 textos en disant salut mon grand,
excellent lieutenant.
Brown, vous le mettez dans quelle catégorie de joueur?
C'est solide, hein, quand même.
C'est très solide. Ouais, moi, j'aurais dit un bis. Dans cette équipe de Boston, j'aurais
dit
un bis. On
part à qui dans la Ligue? À Jamal Murray ou...
C'est un excellent lieutenant, après. Oui,
donc l'étoffe d'un champion. Quand même.
C'est un excellent lieutenant.
Aujourd'hui, Steph Curry, alors il y a trop d'affect et il y a trop d'amour. Mais si tu lui dis, on se sépare de clé pour prendre Jaylen Brown, je pense que Steph Curry, il te fait un petit coup d'œil.
Désolé, Clay, j'ai passé une très bonne année avec toi.
Mais tous les jours, et c'est vrai que là, le choix va être important si ça ne gagne pas dans 2-3 saisons, parce que Jaylen Brown, tu te dis, il y a un côté, alors même s'ils ne sont pas au même niveau de leur carrière, mais James Harden qui sortait du banc à OKC, on disait, et s'il était le patron d'une équipe? Et je pense que ça serait aussi intéressant de voir Jaylen Brown, le leader de son équipe, voir ce que ça pourrait donner ailleurs. Parce que je pense qu'entre Tatum et Brown,
deux trois saisons, c'est trop.
Après, que veut faire Jalen Brown? Est-ce qu'il veut être le leader d'une équipe? Dans ces cas-là, t'enlèves tes prétentions de champion NBA.
Exactement.
Ou tu parles de l'équipe.
Le problème de ce genre de joueur, c'est qu'il se retrouve dans un mauvais Charlotte ou un truc comme ça. Il va mettre ses 35 pions par match, puis il va rien se passer. Ils vont finir
totalement
7e.
Il a déjà signé son gros contrat. C'est plus l'argent le moteur.
C'est le gros contrat de l'histoire, lui, qui l'a signé.
Basket Time spécial Boston Celtics.
Il veut passer à Larry Loiseau, j'ai l'impression.
C'est important. Alors là, quand même, Larry Bird, c'est notre partie historique. Left corner, down low for Bird with position. He fakes it and shoots it good. Bird, the fall away is good. Rebound Bird. Bird on the baseline. Great pass. Oh, what a pass. Bird for the bomb. Got it again. Posted up Bird. Takes the jumper and hits it. Corner Bird bomb. Good. There's Bird. Bird, 14 seconds, he got fouled. He hit the shot. They're not going to count it. Bird has 60 points. Larry Bird scored 60 points. Look at the Boston players mob him. Alors, dans cette partie historique, on va vraiment revenir aux bases. Là, on va parler d'une légende de la NBA parce que, comme je disais tout à l'heure, Fred, je pense que c'est important d'éduquer les jeunes générations. Est-ce qu'aujourd'hui, un gamin qui suit la NBA, qui fantasme sur Shai Gilgeous-Alexander ou je ne sais qui, connaît bien Larry Bird? Il le connaît probablement. Est-ce qu'il le connaît bien?
Non, mais même nous, on l'a peu vu évoluer. On sait. Quelques histoires, parce qu'il y a des histoires incroyables, mais c'est tout en fait.
Le grand rival de Magic, que quand même, là, je pense, tout le monde connaît encore.
Magic Johnson?
Ouais.
J'espère. Méfie-toi, Pierrot. Les enfants de 10-12 ans, je suis pas sûr.
Et puis, il se passe tellement de choses dans cette ligue. Un champion en chasse un autre.
Vous tapez Larry Bird sur YouTube, vous trouvez.
Et alors, on va parler de Larry Bird, donc légende de la NBA, qui a aujourd'hui 67 ans, qui a fait 13 saisons à Boston, 3 fois champion NBA. Il est aussi, bien sûr, champion olympique 92 et la fameuse Dream Team. Chacun d'entre vous va me parler d'un aspect de Larry Bird. On va commencer, bien sûr, par son immense carrière, Arnaud.
Immense carrière, mais finalement, dans le temps, pas tellement, parce que tu vois, tu l'as dit, il a joué que 13 saisons parce qu'il a eu des problèmes physiques. D'abord, ça démarre au lycée où, dans son état d'origine, l'Indiana, il avait tout cassé puisqu'il finit meilleur joueur de l'année. Il arrive en NBA en 1980 en étant drafté l'année d'avant, mais il avait fini son année au college. Rookie de l'année.
Il a voulu faire cette dernière année.
Ouais, puis il y avait des problèmes un peu contractuels entre le grand patron des Celtics, Red Auerbach, et son agent. Donc il y avait un peu des bisbilles. Donc il avait fini son année. Rookie de la saison en 1980. Quand tu regardes quand même les rookies de la saison, puisqu'on en parle un peu pour Victor Wembanyama et son importance, il y a quand même plutôt des bons noms. Bon, j'ai revu Michael Carter-Williams. Donc comme quoi, des fois, ça ne marche pas tout le temps. Même si à l'époque, il le méritait évidemment. C'est surtout Larry Bird, la dernière fois qu'un joueur a été triple MVP de la saison. Consécutivement. Il y a eu des doublés, mais voilà, sur Larry Bird dans les années 80, 84, 85, 86, il a été triple MVP en étant deux fois champion, 84 et 86. Là aussi, c'est énorme parce que quand tu vois ceux qui ont été MVP de la saison, puis champion derrière, c'est le gratin du gratin, les LeBron, Steph Curry, gratin dauphinois. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà pour Larry Bird, qui avait aussi 3 mentions en NBA All Defensive Team. Donc, c'est un joueur qui était à la fois exceptionnel en attaque et très bon aussi en défense, avec, on voyait ce grand gars-là, qui saute de 2m06, qui avait quand même un peu de jump, qui était un petit peu du côté d'OVNI. On voyait pas trop ça dans les packs.
Une dégaine qui
la moustache,
rien,
le petit blond de l'Indiana.
Le
dire, hein.
Mais surtout, petit short aussi.
Le petit short, effectivement, le maillot
et
blanc
short,
là, du Celtics.
Sous le short, un petit cycliste.
Maillot 33, maillot retiré. Et juste pour terminer, il a quand même fini en 98 coach de l'année avec Indiana, et dirigeant de l'année en 2012, toujours avec Indiana. Donc, tu as aussi ce côté grand joueur qui a été un très bon coach et un très bon dirigeant, Michael, si tu nous regardes.
Et qui n'a jamais joué pour les Pacers, hein, l'île
non.
Qui est originaire de l'Indiana, si je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait, je ne dis pas de bêtises.
Alors, Steve, quel joueur c'était Larry Bird?
Larry Bird, Larry Loiseau, écoute, Arnaud l'a dit, 2m6, 100 kilos, hybride sur deux postes, ailier fort, c'est un shoot atypique déjà, derrière la tête, qui faisait qu'il était un petit peu incontrable. J'ai envie de te dire très adroit à 3 points. Alors, les chiffres vont vous paraître surprenants, puisqu'on était dans une époque où le tir à 3 points venait quasiment d'arriver et qu'il n'y avait pas une recrudescence de ces tirs-là. Donc, c'est 38% en carrière à 3 points. 3 points avec 2 tirs seulement tentés par match en moyenne. Eh oui, bah à l'époque le tir à 3 points c'était pas comme aujourd'hui, Pierrot. Mais c'était un énorme filocheur. Il a remporté le concours à 3 points en NBA avec avec cette phrase mythique où il arrive dans le vestiaire et dit salut les mecs, qui termine deuxième aujourd'hui. Voilà.
Et l'image où il tire le dernier ballon.
Et puis il s'en va. Et il s'en va comme ça, il tire sans regarder. Donc un peu précurseur de Steph Curry quand il balance des tirs à 3 points et il se retourne. Énorme adresse à 2 points dans le tir extérieur. Gros joueur de haut panier avec du post-up, un jeu de feinte de filou, une feinte de tir exceptionnelle qui faisait perdre leur short à tous les défenseurs, de très bons appuis. Pas un énorme athlète, mais il a claqué quelques dunks bien sentis. Vous pouvez aller voir quelques dunks sympas. Un sens du placement au rebond exceptionnel, puisque c'est 10 rebonds de moyenne en carrière, Larry Bird. Passeur d'exception, si aujourd'hui vous vous extasiez sur les passes de Jokic à la tête, les passes aveugles.
J'allais te dire, que tu nous présentes les passes cachées Jokic des années 80.
Et toutes ces passes-là, Larry Bird les a faites dans sa carrière, les passes volées à une main, les passes derrière la tête, les passes qui n'existent pas, il les a faites. Des tirs pour la gagne, si on parle de clutch, il en a mis un paquet aussi. Un sang
froid. Lui, je donne la balle. Voilà.
Un sang froid exceptionnel, un énorme trash talker qui pouvait partir à la bagarre aussi. Il y a quelques highlights où il envoie quelques bonnes parties. Larry avec sa moustache blonde.
Oui, parce qu'à l'époque, c'était plus autorisé.
Oui, exactement. Il y a quelques patates qui partent. Voilà. Et pour les plus jeunes d'entre nous, pour votre culture personnelle, tu l'as dit, allez vous faire 15 minutes de Larry Bird sur YouTube et vous allez vous régaler.
Moi, il y a une action que je voudrais rajouter qui me marre parce qu'on avait vu Victor balancer le ballon sur la planche, le récupérer et dunker. Larry Bird le faisait déjà à l'époque. Hein.
Oui.
Petite parenthèse, ambidextre
aussi, Larry Bird.
Ah, important de le dire.
Ambidextre. Je crois qu'il avait fait un match en tirant que main gauche, en disant hey, je me réserve pour le match d'après.
En fait, il jouait contre les Lakers après. En fait, il jouait contre les Lakers et le match d'avant, il joue que avec sa main gauche et il dit mais pourquoi t'as joué que avec ta main gauche? Ben, je garde ma main droite pour les Lakers.
Juste faire une parenthèse sur Victor. Cette action que tu nous as décrite, ce qui est stylé, c'est que c'est pas pour la flamme, c'est parce qu'il est obligé de faire ça sinon il est en galère.
Et Larry Bird aussi, voilà. Et c'était pas pour la flamme, il a une action, je vois dans le trafic à un moment, il est là, chrono des 24 qui descend, il arrive, hop, ballon sur la planche, je récupère en l'air et je marque.
Alors justement, Steve,
attends, juste pour revenir, oui, sur une action mythique aussi, Larry Bird qui se retrouve derrière la planche et qui sait pas quoi faire, un des premiers à le faire, il shoot au-dessus de la planche et il marque le panier.
Alors justement, Steve a fini par ça et on va te passer le relais, Fred, parce que c'est aussi une personnalité hors norme.
Ben, en fait, pour comprendre Larry Bird, il faut savoir d'où il vient déjà. Il vient d'un village de 2300 habitants qui s'appelle French Lick. Il est né en 56, je ne dirai rien. Mais qui s'appelle French Lick, qui ferait passer Limoges pour Brooklyn. Donc pour te dire à quel point c'est vraiment, vraiment bien pourri. Il a 5 frères et sœurs. Il vient d'une famille extrêmement pauvre, mais comme il l'explique lui-même, on était pauvres, j'avais cette notion d'être pauvre, mais comme tout le monde était pauvre autour de nous, bah on n'était pas vraiment envieux. Il a appris vraiment le sens du sacrifice, le sens du travail. Il était proche de son papa, qui était pourtant un vétéran de la guerre de Corée, et son papa s'est suicidé. Ils se sont séparés avec sa maman. Il s'est suicidé au téléphone. Il appelle sa maman pour lui dire « Vous vivrez beaucoup mieux sans moi. » Il se suicide au téléphone. Donc, t'imagines un peu le traumatisme de ce gamin. Donc, voilà, pour essayer de comprendre pourquoi ce gars-là n'avait peur de rien, absolument de rien, ni de personne. Et il a surtout appris la valeur du travail et aussi le fait que l'argent que tu as sur ton compte en banque, c'était pas le plus important. Donc, vraiment, lui, il faisait du basket pour le plaisir. C'était...
Même s'il a gagné beaucoup d'argent,
évidemment. Gagné beaucoup d'argent, c'était pas le moteur de sa vie. Et il faut quand même penser que ce garçon, donc il commence le basket grâce à son frère Marc qui était un joueur de basket, lui il préférait le baseball, il va au basket, il devient très fort dans son petit collège et finalement il est repéré à peu près par tout le monde et Indiana University coaché par Bobby Knight, une légende absolue, le recrute et là lui il se barre avant la reprise des entraînements, il dit il y a trop de monde ici, moi je viens d'un village, je suis pas bien, il retourne chez lui, il devient cantonnier, c'est-à-dire que pendant un an le mec est une sorte d'éboueur, il ramasse des détritus,
fait du riz cantonnier.
Ouais.
C'est nul.
Et donc imagine un petit peu ce garçon, sa maman réussit à le convaincre de reprendre ses études, il reprend ses études et là il va à Indiana State, donc il a une première année où il ne peut pas jouer, donc encore une fois cette force mentale, ce caractère. Et il se retrouve à jouer, après à exploser. Et il est tellement fort que sa dernière saison, c'est la Birdmania. Tout le monde rêve de lui, tout le monde parle de lui. Et lui, il ne parle plus aux médias, sa dernière saison. Pour deux raisons. La première, pour se protéger, évidemment. Mais aussi pour protéger ses coéquipiers. Parce qu'il se dit, sinon l'attention tombe sur moi. Et eux, ils vont être dans l'ombre. Donc je ne veux pas de ça. Voilà quel personnage c'était. C'était un personnage qui n'avait peur de rien. Qui se battait tout le temps. Qui allait défier n'importe qui. Parce que... sa vie lui avait permis de créer ça.
Et dont on a déjà parlé dans une autre partie historique, quand on a fait les plus gros trash talkers de l'histoire, quand même. Hein. Grande bouche, énorme bouche.
C'est Nelly Furtado lui a rendu hommage sur une chanson.
Ah, vas-y.
Bon, Marley aussi, hein, tous les deux corps.
Lynyrd Skynyrd aussi, mais...
Oui, j'avais plus ça, Lynyrd Skynyrd.
Allez, c'est parti pour un quiz sur les Boston Celtics. Merci pour Larry Bird. Et alors là, je suis très content de ma trouvaille. Tournerai en rond, et là, on va pas tourner en rond. Est-ce que vous êtes prêts ?
Coco Kukoc,
absolument. Alors là, vous mobilisez vos neurones.
Non, faites pas les paysans, t'es un mec de début de Chaumont, toi.
Je pense que deux filles contre les vampires.
Et voilà, exactement. T'es pas un esthète du visage, qu'est-ce que c'est ton problème hein,
un esthète du visage.
Je vous la refais. Mon premier est l'esthéticienne débronzée.
C'est Christiane, l'esthéticienne, c'est Christiane Wood.
Bienvenue à Galaxy. Il y aura une charade sur les Celtics. J'aime mieux vous prévenir tout de suite. Il y aura un peu de rock aussi parce qu'on passe beaucoup d'hip-hop. Il y aura un tout petit peu de rock. Toi, t'écoutes du rock, toi.
J'ai un blind test. J'écoute tout, moi.
Non, il n'y a pas de blind test. Hein? Non, c'est juste un petit indice dans une question qui arrive très vite. Puisque nous allons démarrer par la culture générale, de temps en temps, comme ça, on en fait. C'est pas dur, t'inquiète pas, c'est pas dur. Franchement, puis ça va aller vite. Ça sera sans douleur. Et on va démarrer donc par une question gastronomie, puisque tout à l'heure, on a parlé du trompe-l'œil. Quel chef est le spécialiste du fruit en trompe-l'œil ?
Etchebest ?
Non.
Piège ?
Non.
Putain, je trouve plus.
Il fait des dessins incroyables qui vont à 14 000 euros pièce. Non.
Grolet.
Cédric Grolet. Bravo, Cédric Grolet.
Il est beau, c'est un joli mec.
Alors lui, je ne sais pas.
Il est petit, beau.
Mais il fait des trucs incroyables. Il fait des poires.
Incroyable ce qu'il fait, non vraiment. Ouais.
Dessert à la poire.
Il avait vendu une bûche horrible à 80 euros qui avait choqué.
Non, mais les prix sont démentiels. Hein. Bon, Cédric Grolet, premier point, c'est pour Arnaud.
Pas les moyens.
On reste dans la culture générale.
J'ai Paul Pierce.
Alors, c'est moins cher, mais c'est moins bon aussi. Hein. On cherche un film qui se déroule à Boston. L'intrigue est à Boston. C'est un film assez connu.
C'est pas Philadelphia, non.
Assez récent. Et vous allez écouter la bande-annonce en version originale. Si vous ne trouvez pas, je vous donnerai 2-3 indices.
When I was your age, they would say we could become cops or criminals.
Incorruptible.
When you're facing a loaded gun. What's the difference?
This is not the regular police. This is the state police.
We are an elite unit.
This is who we're after.
Frank Costello.
Frank Costello.
Vous
vous rapprochez?
Non. So what do I do?
Ça ressemble. Jack Nicholson.
Les infiltrés.
Bravo, Costello.
C'est Costello qui m'a...
Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Martin Scorsese, grand film.
Bah, bien sûr, grand film.
Avec ses bandits, c'est Martin Scorsese.
Oui.
Et c'est donc le point pour Fred. Dernière question.
Tu me dis quand on démarre le basket.
Dernière question, Culture G, une petite charade, vite fait, bien fait. Vraiment vite fait, bien fait. Hein. Mon premier est un pilote de Formule 1 brésilien qui a été coéquipier de Raikkonen et Alonso chez Ferrari. Mes secondes sont-elles sèches, archi sèches?
Massachusetts,
bravo. Massachusetts, l'état de Boston, bien entendu. Steve l'a pas du tout, la charade.
Felipe Massa
et les chaussettes.
Oui.
Voilà. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches?
On démarre sur le basket, Steve, t'as 2 points de retard. Allez, facile, très facile, question de rapidité. Après les Celtics et les Lakers, qui ont 17 titres chacun, quelle est la troisième franchise la plus titrée?
Les Spurs.
Non.
Warriors.
Non.
Bulls.
Les Bulls, ça, avec 6 titres. On passe de 17 à 6 directement. Bravo Arnaud, tu prends un peu d'avance. On va faire un vrai ou faux sur la saison en cours, chacun votre tour. Fred, Boston est l'équipe qui a inscrit le plus de paniers à 3 points cette saison. C'est vrai ou c'est faux ?
C'est vrai.
C'est vrai. Et de très loin, 760. Le deuxième, c'est Dallas, 715. Et pourtant, ils sont 11e seulement en ratio. Avec 37% de réussite. C'est incroyable quand même.
Bah c'est incroyable, mais ils ont raison de continuer.
C'est-à-dire qu'ils font
shooter. Ils font que shooter.
Donc un point pour Fred.
Heureusement qu'ils ne sont pas 40%, parce que sinon, ils seraient à 146.
Arnaud, Boston est l'équipe qui a fait le plus de blocs par match cette saison. Qui fait le plus de blocs par match ?
Boston, c'est faux.
C'est vrai. Ah. 6,4 à égalité avec OKC, mais à la décimale, c'est Boston qui en fait le plus. Steve, Boston est l'équipe qui prend le plus de rebonds par match cette saison.
Boston. Donc il y a deux vrais. Tu feras un trois vrais comme ça sur un premier tour. Bah, plus de rebonds, le plus de rebonds. Qui prend beaucoup de rebonds? Porzingis s'en prend, mais pas beaucoup. Alors,
bah, c'est les grosses défenses qui génèrent.
C'est mal me connaître, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Avec 47,3 rebonds devant Utah qui a 46-6. Alors je vais vous diffuser une publicité. Et vous allez devoir déterminer, me dire, qui partage l'affiche de cette pub américaine avec Jason Tatum. Donc je vous demande, il y a Tatum, et il y en a un autre qui lui parle. Écoutez bien les dialogues.
All-Star Game MVP, drop 55.
Paul Pierce.
Paul Pierce. Ah, drop
60. Bravo. Tu connais la voix de
le timbre de voix, ouais.
Excellent, bravo. Donc c'est Paul Pierce.
Je regarde plus ce podcast avec une garnette. Ah,
plus que tu parles de pub, allez voir la pub Larry Bird, Michael Jordan, McDonald's. Elle est incroyable où ils font un horse.
Oui, il concours de tir, il démarre dans le gymnase, après il termine sur le parking de Lidl, il tire.
Alors t'as marqué ton premier point, peut-être que ça part de là. Steve, le score est de 3 pour Arnaud, 2 pour Fred et 1 pour Steve. Chacun votre tour, nous allons faire un. Attention, tu dis ou bien Tatum ou Batum.
Ou les, bon. Deux, ou les deux aussi.
Ou les deux ou aucun des deux.
Okay.
Tatum, Batum, les deux ou aucun des deux. Fred, on commence par toi. Alors, dans ma carrière, lors d'une saison, j'ai disputé les 82 matchs de la saison régulière et en plus, je les ai démarrés comme titulaire les 82. Tatum, Batum, les deux ou aucun des deux.
Les deux.
Oh non, c'est seulement Nicolas Batum. 2013-2014 avec Portland,
Tatum,
il a fait les 82 matchs titulaires. Le maximum de Tatum, c'est 80 matchs. On passe à Arnaud. Batum, Tatum, les deux ou aucun des deux. J'ai moins de 10 triple-doubles dans ma carrière. J'en ai moins de 10.
Moins de 10 triple-doubles. J'ai moins, je pense, les deux.
Absolument, les deux. Batum, 9. Tatum, 2. Facile ça?
Oui.
Batum, il en a 9 quand même.
Et quand j'ai entendu Kawhi Leonard seulement 2 en carrière, ouais, j'ai été très surpris.
T'aurais dit facilement les deux.
Tout à fait, Pierre.
Bon, et ben tu vois.
Moi, vas-y. Envoie-moi ta question pourrie.
J'ai gagné plus de 10 millions de dollars en salaire NBA uniquement lors de la saison 2020-2021.
J'ai gagné plus de 10 millions de dollars.
T'as le temps de réfléchir.
10 millions par saison.
2020-2021. Je pense où ils étaient l'un et l'autre.
2020, était à Boston. Mais est-ce que c'était la fin de son contrat rookie et machin, son nouveau contrat? Nico, 2020-2021. Je vais dire les deux.
Je pense que c'est que Batum au-dessus avec son contrat Charlotte.
Que Batum, puisque c'était la dernière année rookie de Tatum qui a quand même pris 1,897,000 dollars. Ouais, t'es un peu abusé. Alors surtout que Batum a gagné 10,477,000 dollars. C'est la saison où il change.
Ah. Il se fait couper alors, ça. Peut-être la saison où...
Probablement, je ne sais pas.
Il, était
il prend 8,8 millions à Charlotte et 1 million aux Clippers. Ensuite, on retourne sur Fred. Fred, j'ai été entraîné par Doc Rivers. Tatum, Batum, les deux ou aucun des deux?
Aucun des deux.
Nico, Batum, aux Clippers.
Eh oui. Je crois qu'il était parti avant.
Arnaud, je suis titulaire en finale des JO de Tokyo.
Alors Batum, c'est oui. Oui, Tatum, il est... bah, oui, les deux.
Non,
Tatum, blessé.
Tatum il est blessé. Tatum est sur le banc.
Il est blessé,
il
joue
pas, je crois. Il sort du banc, il met 19
c'est
points.
C'est la vie qui... Oh, c'est Jrou. Ça
en doit tout être cas, Jrou, il démarre sur le banc. Et enfin, Steve... j'ai joué avec Gershon Yabusele. Tatum, Batum, les deux ou aucun des deux?
N'importe où.
N'importe où, oui. J'ai joué avec Gershon Yabusele.
Je pense les deux.
Les deux, absolument, bah oui, quand même.
Là, c'était facile aussi.
C'était facile.
Oui, mais c'était facile. Mais la finale des JO, c'était pas très dur.
J'étais pas.
Et Doc Rivers, si tu t'étais concentré, t'avais la réponse aussi. C'était moins dur la deuxième salve que la première.
Donc c'est uniquement une faute de concentration.
Je pense. Bah, le but, c'est de réfléchir un peu. Voilà, où était Tatum en telle année, etc. Mmh. Bon, ça fait 3 points pour Arnaud, 2 pour Fred, 2 pour Steve. Quel entraîneur, on va revenir aux Celtics, à l'histoire des Celtics, quel entraîneur est resté le plus longtemps sur le banc des Celtics
dans
l'histoire?
Red Auerbach.
Red Auerbach, oui. Bravo. 16 saisons, 9 titres de 1950 à 1966. C'est pas la grande saucisse prendre de l'avance. Hein.
Non.
Vous connaissez
l'histoire. Fais-nous un petit rappel là quand même. Je suis revenu dans le match.
3 points pour Steve, 3 points pour Arnaud, 2 points pour Fred.
Ah ouais, je suis revenu dans le match.
C'est plus dès que c'est plus la culture G.
C'est ça qui m'intéresse.
Il disparaît. Alors, question super intéressante là encore. Quel est le seul joueur champion avec les Celtics et avec les Los Angeles Lakers?
Vas-y, répète.
Champion avec les Celtics et les Los Angeles Lakers, non.
Le Celtics. Rajon Rondo.
Rajon Rondo, bravo, il a trouvé.
Oui, c'est vrai.
Il a trouvé, c'était pas si dur.
Il vient de se faire arrêter en possession d'armes et de drogue.
Et alors, il a gagné les deux derniers titres des deux, des deux franchises, 2008 et 2020. Il y a un autre joueur qui
a gagné. Et il en a perdu une pour les Celtics aussi, au passage.
Il y a un autre joueur qui a gagné avec les deux franchises, mais c'était les Minnesota Lakers, il s'appelle Clyde Lovellett.
Ah oui,
ah ben, Lovellett.
Tous les matins. Tous les matins.
voilà, on a fini. Donc c'est Arnaud qui a gagné. Non. Car il reste une question.
Ah oui, tu m'as fait peur. Hein.
Donc le score, c'est 4 points pour Arnaud, 3 pour Steve et 2 pour Fred. On fait la finale 2008. Donc les Celtics contre les Lakers. Bah Fred, c'est un petit cadeau ça. C'est les Lakers, c'est
quoi,
ton équipe.
C'est quoi la question?
La finale 2008, ok. Aux enchères, vous allez me dire combien de joueurs vous êtes capable de me citer, mais seulement dans l'une des deux franchises, celle de votre choix. Vous avez le choix soit les Lakers, soit les Celtics. Vous me donnez un max de joueurs qui ont joué cette finale. Alors, c'est Fred qui commence l'enchère. Il faut que tu en aies au moins 3 pour gagner. 3, ça devrait aller.
3, c'est bien.
Arnaud ? Arnaud, il est en train de...
3, mais dans quelle équipe ? On ne dit pas.
Lakers.
Bah, vous faites ce que vous voulez, mais après, okay. Une fois que ça démarre, c'est une seule des deux. Donc, 3, Arnaud, tu enchéris ?
7.
Allez, on est à 7, là, il lui monte le curseur. Steve ?
10.
10 !
Les 10 Celtics, 10 Lakers.
Fred, tu montes ?
Non.
Non, tu ne montes pas ? Arnaud, tu montes ?
À 8.
Si t'es à 8, tu restes à 8. Hein.
Ouais. J'ai fait que Boston, donc...
De toute façon, tu peux...
Oui. Non, je surenchéris pas.
Allez, Fred, Steve, pardon, quelle franchise t'as choisi ?
Je prends les Lakers.
Je prends les Lakers.
Tu prends les Lakers, ok. Là, je t'écoute.
Kobe Bryant.
Ouais, on en a un.
Lamar Odom.
Lamar Odom, on en a deux.
Pau Gasol.
Pau Gasol, on en a trois. Je te dis tout de suite, t'as pas beaucoup de marge. Hein.
Derek Fisher,
quatre.
Ronny Turiaf.
Ronny Turiaf, 5.
Luke Walton,
6.
Sacha Vujacic.
Bien joué.
C'est bon, ça fait 7.
Jordan Farmar.
Farmar, c'est bon, ça fait 8.
Trevor Ariza.
Bien joué. Ouais.
J'allais t'aider pour Trevor Ariza, mais c'est bon, ça fait 9. Et bien, il t'en reste que 2. Il faut que tu en trouves un des deux. C'est pas simple, hein.
Vladimir Radmanovic.
Ah, c'est excellent, il vous a défoncé. Voilà, il n'y a rien à dire.
Il n'a pas été aidé ?
Il n'y a rien à jeter. Il en manquait un.
Aidé par qui ?
Qui s'appelle ?
Je ne sais pas, une petite voix ?
Non,
je ne pense pas.
T'as sorti des noms, mec.
Je peux donner les initiales, voir si on trouve.
Le 11e, CM.
Chris Mim.
Chris Mim, absolument. Vous voulez les joueurs de Boston ?
À Boston, moi j'avais.
Sa mère, alors, c'est Marceau.
J'avais Pierce, Garnett, Rondo. Allen,
ouais.
Perkins.
Ouais.
Ensuite, j'allais chercher, je me demande, c'est pas un Idiehouse.
C'est bon.
Il y avait
James Posey,
c'est bon.
James Posey.
Est-ce qu'il n'y avait pas du Pascal Abri? Non.
James Posey, c'est bon.
Tony Allen,
bien sûr.
Ah oui, Tony Allen, il manquait lui.
Glenn Baby Davis.
Baby, oui, je l'avais pas.
C'était plus facile Boston en vrai. Et les deux autres, c'est Sam Cassell et PJ Brown.
PJ Brown, c'est sûr. Ouais. Sam Cassell, possible.
Ouais. Bravo Stephen.
Alors, j'avais vraiment perdu ce prix.
Brillante. Et je vous dis à la semaine prochaine.
RMC Basket Time.